Bac FM, il est 10h31 et 24 secondes exactement. On est parti pour votre rendez-vous ciné de la semaine. Action, c'est parti.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action. Moteur.
Et je suis comme tous les jours en compagnie de mes deux acolytes. Je suis avec Marie, je suis avec Laetitia. Mais aujourd'hui elles sont au micro parce que dans Action, elles sont avec moi pour parler cinéma. Salut les filles.
Salut Théo.
Salut Théo.
Ça va?
Bah ouais, ça va toujours quand on va parler cinéma.
Ouais, bah en plus, alors aujourd'hui, il n'y a pas un très très gros programme sortie ciné, il n'y a pas une très très grosse actu box-office, mais il y a quand même une actu cinéma, c'est quand même le Festival de Cannes. On va revenir dessus en fin d'émission, et puis on a fait, on peut le dire déjà, pour le sommaire de cette émission, on a pris les 10 films qui étaient très attendus pour ce festival, et puis on en a tous choisi un qu'on va présenter. Alors il y a deux films, et il y a même un petit peu une série aussi, c'est moi qui vais vous la présenter, c'est une série qui est créée par The Weeknd, le chanteur, qu'on écoutera aussi tout à l'heure. On va parler quand même évidemment des sorties ciné, et puis on va faire un petit point sur ce box-office qui a quand même évolué parce que Super Mario n'est plus premier, il a été détrôné.
Oh mon dieu!
Est-ce que vous savez par qui il a été détrôné?
Bah moi je vais pas m'exprimer parce que...
Tu l'as devant les yeux.
Je l'ai devant les yeux,
ouais,
donc je vais laisser à Marie.
Bonne question, je pense que je ne... Pourrais pas te dire.
Eh bien, c'est les Gardiens de la Galaxie
3. Ah oui, c'est d'accord.
Ils sont à la tête de ce box-office avec 730 000 spectateurs pour un cumul à 2 053 000 entrées. Voilà, parce que c'est la deuxième semaine qu'ils sont dans ce box-office. Je suis allé le voir et vraiment pas mal.
Il a fallu combien de semaines pour que Mario descende d'un cran ?
3 semaines.
Quand même.
Mais d'ailleurs, il continue d'évoluer quand même, hein,
ah
Mario.
Oui, bah oui, oui.
Mais ouais, Les Gardiens de la Galaxie, très très bien. Très très bon film, avec beaucoup de petits rappels sur les deux précédents. Beaucoup de petites allusions qui sont vachement sympas et avec toujours une bande originale exceptionnelle.
C'est ça, Les Gardiens de la Galaxie.
Oui,
il y a une bande sonore, mais depuis le premier, qui est absolument incroyable.
Et en soi, c'est une des franchises Marvel les plus qualitatives, personnellement, en tout cas, je trouve.
Oui, oui. Donc, bah, puis surtout qu'en plus, Marvel avait plutôt intérêt à bien marcher parce que Ant-Man était un bide, un bide complet. Donc, ils avaient plutôt intérêt de marcher avec Les Gardiens de la Galaxie et c'est une réussite. Donc, franchement, pas mal avec. Un avant-goût de ce qui va se passer par la suite. Je vous dis rien, il est toujours à l'affiche du ciné Mazarin, vous pouvez aller le voir. Et puis le deuxième, eh bien c'est quand même le petit plombier moustachu, c'est Super Mario, qui est deuxième avec 220 000 nouveaux spectateurs, un cumul à 6 660 000 entrées. Le film dépasse le cumul final de L'Âge de Glace 2, qui était de 6 627 000 entrées, dans la catégorie animation. C'est un vrai, vrai succès. Et on parle déjà d'un Mario Bros 2, évidemment.
Oh, c'est plus ou moins sûr. Hein. Ouais. De toute façon, il me semble que Nintendo a dit qu'il y aurait pas mal d'autres films dans l'univers Mario.
Ouais, oui, ils vont faire.
Ils avaient communiqué là-dessus, comme justement, ils allaient. Ils avaient dit quelque chose comme on espère qu'il y aura beaucoup d'autres films.
Ouais, autour d'autres personnages de l'univers Mario. Ouais,
bah,
bien
quand
sûr.
Tu vois qu'il y a eu plusieurs films d'animation de Angry Birds, tu dis que ça
vrai,
ouvre. À côté, Mario, il y a de quoi faire pour faire des bonnes histoires.
Ouais, ouais, carrément, carrément, carrément. Bah, puis Laetitia, tu fais bien de parler justement parce que le troisième va te faire plaisir. À la troisième place, c'est L'Exorciste du Vatican. Un démarrage à 170 000 spectateurs. Pour le créateur du film, Julius Avery, c'est Meyer Coverlord, son film d'action qu'il avait sorti en 2018. Laetitia, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est justement L'Exorciste du Vatican ?
Bah oui, c'est ce film à la croisée entre le biopic, le film d'horreur et le thriller, qui est entre guillemets inspiré de faits réels, puisque ça revient sur un cas auquel a eu affaire le père Gabriele Amorth, qui est incarné par Russell Crowe. Alors on est en 87 et celui qui est à ce moment-là l'exorciste en chef du Vatican, il va être appelé à l'aide par la famille d'Henri, un jeune garçon qui serait possédé. Mais les investigations du père Amorth, ça va révéler quelques vilains secrets du Vatican.
Et c'est un film encore qui cartonne, un film d'horreur qui encore marche très très bien. Et le ciné Mazarin, c'est un des films d'horreur qui marche le mieux hein, pour eux d'ailleurs. Hein, sur cette année 2023, il y en a plusieurs qui sont sortis. Il y a Scream 6 qui était récemment à l'affiche. mais l'Exorciste du Vatican, c'est un de ceux qui marche le mieux pour le cinéma Zara à Nevers et pour les cinémas d'ailleurs en général.
Ça marche très très fort en ce moment, le film d'horreur.
Ouais, c'est vrai, on le dit souvent, on le répète et on le prouve toutes les semaines parce qu'à chaque fois, il y a un nouveau film d'horreur qui est dans le box-office, généralement toutes les semaines. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan continuent d'attirer, lui, les curieux. Il se rapproche des 3 100 000. Il est quatrième, juste devant une sortie qui démarre plutôt bien aussi, je l'aurais pas parié. Eh bien, c'est Hawaï qui prend la 5e place en cumulant 75 000 entrées. Le film de bande avec Bérénice Bejo, Manu Payet, Elodie Boucher, William Lakeville et d'autres laisse la critique presse relativement contrastée, tout comme celle des spectateurs. Un mix entre Les Petits Mouchoirs et Barbecue, voilà ce qui ressort de ce scénario qui se passe en 2018 où une alerte aux missiles balistiques sème la panique sur l'île d'Hawaï. Persuadés qu'ils vont mourir, des amis qui sont venus passer leurs vacances en bande se disent qu'ils n'ont jamais... Ils se disent ce qu'ils n'ont jamais osé se dire. Quand ils réalisent qu'il s'agit d'une fausse alerte, il est trop tard pour revenir en arrière. Je vous propose la bande-annonce.
Qu'est-ce qui se passe, là? Une alerte missile?
Vous êtes où, là?
C'est une alerte missile, faut pas rester là!
Je sais où on peut se planquer, venez!
Je
veux pas
crever.
Je voulais vous dire, je suis fier d'être votre ami. Je vous aime.
Moi aussi, on t'aime.
Moi aussi, je vous aime.
Et toi, l'homme le plus extraordinaire.
Je t'aime, Anton. On aurait dû rester ensemble.
Pardon?
Vous avez été ensemble, hein?
Tout le monde était au courant, là?
On te supporte parce que t'es la femme de notre pote, mais on t'aime pas.
Tu te souviens de ce que tu me faisais avec la crème chantilly? Je peux plus manger de chantilly sans penser à toi.
C'est vrai, vous aimez pas mes spécialités?
Si.
Moi, je suis une faux cul.
Tout le monde les hait ici, t'es mort.
Vous les appelez comment?
Est et choléra. Vous voulez pas qu'on se dise plutôt qu'on s'aime, hein?
J'ai envie de te licher partout.
Allez, vous avez pas l'air au courant, là, mais c'était une fausse alerte.
Putain.
Elle démarre bien, les vacances, hein?
On a tous eu très peur, on n'était pas dans notre état normal. Faut que tu redescendes là.
Je suis désolé pour peste et choléra, voilà, ça va. Mais dégage, merde!
J'espère que tu me pardonnes. En tout cas, moi, je pardonne à tout le monde.
Ah ben, moi, je pardonne pas.
Hein. T'es pas gentil de faire ça à son ami.
On se dit qu'on s'aime et tout est effacé.
Par rapport à la chantilly, est-ce que vous vous interrompez?
Arrête,
quelqu'un se lève et va chercher.
Je te jure, c'est dur.
La crème au frigo?
Non, c'est dur.
Ou bien est-ce que vous la sortez au préalable?
Hawaï, c'est encore à l'affiche de votre ciné Mazarin. Et puis l'autre sortie de la semaine, et qui marche plutôt bien, eh bien c'est Manuel Housset qui nous l'a présenté semaine dernière. Roche Dizem est un principal prêt à tout pour que son fils réussisse scolairement. 65 000 spectateurs qui l'amènent à la 6e place du classement. Et puis des nouveaux films sont sortis ce matin pour prendre une place dans le box-office, et c'est ce qu'on voit tout de suite avec les sorties de la semaine.
Pour le grand écran! Pas pour la petite lucarne! Et voilà, on a les droits!
Et trois nouveaux arrivants cette semaine au ciné Mazarin. Un retour, c'est celui d'un monstre sacré du cinéma français. Il endosse le rôle d'un chef étoilé de grande renommée qui, lorsque sa santé et sa vie de famille se détériorent, décide de partir au Japon à la recherche d'un chef japonais qui l'avait battu à un concours de cuisine 40 ans plus tôt. Ce voyage culturel et culinaire va l'emmener à faire le point sur sa vie et découvrir la fameuse saveur qu'est l'umami. Le chef en question est cet acteur. En question, c'est Gérard Depardieu. C'est un film que vous pouvez retrouver dès maintenant au ciné Mazarin. Et puis c'est une bande aussi qui revient après Les Gardiens de la Galaxie, voilà ceux de la route pour une ultime aventure. Et après bien des missions, Dom Toretto et sa famille ont su déjouer tous les adversaires qu'ils ont croisés sur leur route. Ils sont aujourd'hui face à leur ennemi le plus terrifiant et le plus intime, ce revenant est bien déterminé à décimer la famille en réduisant à néant tous ceux à quoi et surtout à qui Dom est jamais tenu. Parce que dans Fast and Furious 5 en 2011, Dom et son équipe avaient fait tomber l'infâme ponte de la drogue brésilienne Hernan Reyes en précipitant son empire du haut d'un pont de Rio de Janeiro. Il était loin de se douter que son fils Dante avait assisté impuissant à la scène et qu'il avait passé ses 12 dernières années à échafauder un plan infernal. Dante va débusquer et traquer Dom et sa famille aux quatre coins du monde. De nouvelles alliances vont se former et de vieux ennemis réapparaître, mais tout va basculer quand Dom va comprendre que la cible principale de Dante n'est autre que son fils, à peine âgé de 8 ans. Une dernière course qui s'annonce épique, Fast and Furious 10, bande-annonce.
Cette route a été extrêmement difficile. Et malgré tout aujourd'hui,
Vous formez cette merveilleuse famille.
Qu'est-ce qui te trotte dans la tête?
Des paroles de petit Brian. Il m'a dit, papa, toi t'as peur de rien. Moi si. J'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime.
Dominique Toretto. Tu vas savoir ce qu'est la peur, la vraie.
Boum!
Tu t'es construit une vie de rêve. Avec l'amour de ta famille. Moi, j'ai pas eu cette chance. Tu m'as tout volé. Mon avenir. Ma famille. Cette fois, à mon tour de prendre les tiens. Un par un.
Il vient vous chercher avec tout son arsenal.
C'est quoi le plan, Dom?
Là, je sais plus.
L'un de nous pourrait ne pas revenir. Mais on doit se battre.
Ne jamais accepter la mort. Quand la douleur est due.
Ça va péter!
On the dangerous. Ain't too many good things with us. Label us no phobias.
C'est un piège.
Il essaie de nous séparer.
On gagnait parce qu'on voulait gagner. On courait pour le respect. Aujourd'hui, je cours pour éviter un bain de sang.
C'est ça le problème d'avoir une famille nombreuse. Lesquels d'entre eux qui va choisir de sauver ?
C'est parti!
Tu sais toujours conduire? À ton avis?
Top départ! Sur le coup!
On joue dans la même cour.
Papa! Aide-moi!
Oui, mon fils, je suis là.
Ils arrivent.
Tu pourras jamais me prendre ma famille.
Dom!
Coucou ma belle, on émerge?
Je le crois pas, c'est une blague.
Dom Toretto et toute sa famille sont de retour au volant. Fast and Furious 10, c'est à l'affiche de votre ciné Mazarin depuis aujourd'hui. Ça vous parle, vous les filles, Fast and Furious ou pas?
Ah, pas du tout.
Pas trop non plus.
J'ai lâché aux 3 ou 4, moi, je crois.
Je t'avoue que j'ai lâché avant de commencer.
Je kiffais bien au début et après, ça m'a... Ouais, ça m'... Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu redondant, en fait.
Alors, en fait, moi, il faut savoir que je déteste les films d'action de base.
D'accord, ok. Ouais, t'es pas dans le délire...
Du tout.
Je suis un peu... dans le même sac que Letty. C'est pas trop mon truc, les films d'action de base, et vraiment les films de voiture en particulier, c'est pas du tout ma cam.
Ok. Donc, c'est...
Je connais l'histoire du premier, je sais ce qui se passe dedans, mais... Ouais,
après sinon ça s'arrête là.
Ouais, voilà.
Mais peut-être que le dernier film que je vais vous présenter va vous intéresser, parce qu'on termine ses sorties ciné avec un film jeunesse, direction une cité sanctuaire où tous les animaux vivent en paix grâce à un arbre, l'arbre à vœux sacré qui les maintient à l'abri des dangers du monde extérieur. Kerry, c'est une jeune opossum qui rêve d'aventure. Alors qu'elle a égoïstement mis en péril la paix qui y régnait, elle doit traverser les terres sauvages entourant la cité sanctuaire pour réparer les dégâts qu'elle y a causés. Elle va devoir combattre l'extinction qui menace les habitants de la cité et tenter de sauver les siens. L'arbre à vœux, c'est une programmation jeunesse qui vous est proposée dès aujourd'hui au ciné Mazarin. Et puis une autre proposition qui fait lien avec l'actualité cinématographique du moment, c'est pas une sortie ciné cette semaine, il est sorti semaine dernière, c'est Manuel Housset qui nous parle du film qui ouvrait le festival de Cannes hier, Jeanne Dubarry, un film en costume signé par Mayouen, le projet qui a de quoi surprendre.
Oui, en effet, Théo. La réalisatrice est surtout connue pour son cinéma bavard, bouillonnant, passionnant, souvent intimiste. On se souvient de de Pardonnez-moi et même jusqu'à ADN en passant par le bal des actrices ou bien encore Police. Alors c'est en découvrant La Comtesse du Barry dans le film Marie-Antoinette réalisé par Sofia Coppola en 2006, eh bien que la cinéaste a commencé vraiment à se prendre de passion pour cette courtisane, fille illégitime d'un moine et d'une cuisinière, devenue la favorite de Louis XV, mais aussi l'objet d'un scandale, un terrible scandale à la cour de Versailles. Alors avec Jeanne du Barry, Mai Wen a totalement changé de méthode, elle a filmé en pellicule vraiment, en pellicule argentique. Elle a renoncé à l'improvisation, elle a posé sa caméra avec de longs et magnifiques plans séquences, sans perdre hein, son style bouillonnant et passionné, dans des décors et des costumes qui sont absolument somptueux. Eh bien, les personnages échangent dans une langue très naturelle, très légère. Il y a une voix off très soignée, percutante, qui complète le récit. Les filles de rien ne sont-elles pas prêtes à tout ? À quoi bon être innocente si les autres ont pour vous des désirs coupables ? C'est grotesque ? Non, c'est Versailles. Voilà quelques petites pépites citées au passage. Jeanne du Barry nous plonge dans les us et coutumes de la cour au XVIIIe siècle, avec des séquences vraiment incarnées, souvent comiques, comme celle du lever du roi ou de l'examen gynécologique d'une courtisane finalement considérée comme digne de la couche royale.
Mais un film qui est avant tout quand même une splendide histoire d'amour.
Oui, vraiment, la passion, la dimension incandescente de cette Jeanne du Barry, et c'est vrai que le film se révèle étonnamment contemporain, et c'est grâce aux propos du long métrage, puisque eh bien, l'histoire à travers laquelle Mai Wen va raconter quelque part sa propre aventure, et il y a une dimension pas autobiographique, mais il y a un effet miroir, on pourrait le qualifier de cette manière-là. Elle qui a été l'épouse de Luc Besson à 16 ans avant de se lancer dans le cinéma. Eh bien, son film raconte l'ascension sociale d'une roturière rejetée par la cour. Il retrace aussi le destin d'une femme qui a été vendue par sa mère, humiliée, violentée par les hommes, et pourtant quand même excitée d'être offerte ainsi au roi et de gravir les échelons de la société. La réalisatrice a soigné tout particulièrement, et notamment dans l'écriture, ses personnages secondaires. Le comte du Barry, interprété par un Melville Poupeau glaçant, très cynique, détestable. Et puis il y a le valet du roi, méticuleux et attachant. Alors là, c'est une incarnation géniale. Benjamin Laverne est époustouflant. Il y a la fille de Louis XV, India Eyre, qui est très drôle, méchante, un peu, voilà, un peu comme les sœurs de Cendrillon. On retrouve ce côté très, voilà, très iconoclaste. Et puis face à une Mai Wen totalement habitée par son rôle, il y a Johnny Depp avec seulement quelques répliques. Et malgré ce que certains pourraient trouver choquant, c'est-à-dire son accent américain, eh bien, il impose sa présence et il est au casting peut-être l'un des meilleurs acteurs de ce film, tout en regard et en nuances impressionnant. Et c'est une histoire d'amour avec un petit côté conte de fées, tout cela avec des décors et une mise en scène somptueuse. Voilà pour ce film qui a fait l'ouverture donc hier soir du 76e Festival de Cannes.
Et justement, ce 76e Festival de Cannes, Manuel ne pouvait pas s'empêcher d'en parler. Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Harrison Ford, Scarlett Johansson, c'est clairement pour lui l'année américaine au Festival de Cannes.
Incontestablement. Hasard de la sélection ou volonté des organisateurs, eh bien c'est sans doute une combinaison de ces deux facteurs. Mais la 76e édition du Festival de Cannes, qui a démarré hier et se poursuit jusqu'au 27 mai, eh bien est marquée par une très forte présence de stars nord-américaines. Dès la première montée des marches, hier soir, au moins trois ont été visibles. Michael Douglas, pour un hommage spécial. Johnny Depp, qui campe Louis XV dans Jeanne du Barry, le film d'ouverture, signé Mai Wen. Et puis, Brie Larson, hein, l'interprète de Captain Marvel, membre du jury de la compétition. Et puis, le lendemain, Pedro Pascal et Ethan Hawke à l'affiche de Strange Way of Life, un moyen-métrage de Pedro Almodovar, eh bien, vont prendre la relève. Jeudi, ce sera le tour d'une autre légende d'Hollywood de fouler le tapis rouge, Harrison Ford, 80 ans, de retour sur la croisette pour présenter hors compétition Indiana Jones et le cadran de la destinée. Le même jour, un autre monstre sacré sera lui présent en compétition, c'est Sean Penn pour Black Flies de Jean-Stéphane Sauvert. Le 20 mai, eh ben, ça sera une affiche de rêve avec Martin Scorsese et ses deux comédiens, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Voilà pour deux stars remarquables qui seront là hors compétition avec le film Killers of the Flower Moon. Le soir même, les fans pourront aller tenter de glaner des autographes auprès de Natalie Portman et Julianne Moore, deux stars en compétition dans May-December, réalisé par Todd Haynes. Et puis le lendemain, le réalisateur Wes Anderson débarquera avec Asteroid City. Et alors là, une galaxie de stars, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Matt Dillon, Margot Robbie, pour ne citer que les plus célèbres.
Et puis les Français, qui seront également à l'honneur de cette 76e édition.
Ben la question qu'on peut se poser, c'est les Français vont-ils arriver à exister dans cette opulence de vedettes américaines ? Eh bien, Théo, oui, car dans toutes les sections, eh bien, il va y avoir des grands représentants de notre cinéma hexagonal qui commencent déjà à se préparer, qui sont dans les starting blocks avec robes de soirée et smoking qui seront de rigueur. À l'exemple, bien sûr, de Chiara Mastroianni, qu'on a vu hier, qui était splendide, naturelle, en maîtresse de cérémonie. Julia Ducournau et Denis Ménochet, membres du jury de la compétition officielle. Audrey Diwan, la réalisatrice qui est présidente du jury de la Semaine de la Critique. Benoît Magimel, présent dans plusieurs films. Virginie Efira, Melville Poupeau, on en a parlé à propos de Jeanne du Barry, qui sera aussi à l'affiche de L'Amour et les Forêts, de Valérie Donzelli. Sans oublier Marion Cotillard, Juliette Binoche, Adèle Exarchopoulos, Elsa Zilberstein, Léa Drucker, Karine Viard, ou même Guillaume Canet, à travers des films présentés dans toutes les différentes sélections. Des sélections dont les projections ne sont pas, il faut le rappeler, accessibles au public qui n'est pas accrédité, lequel quand même pourra profiter chaque soir des séances gratuites. C'est le cinéma de la plage, donc sur la plage de Cannes, avec quand même un programme alléchant cette année, l'avant-première de Flo, la fiction consacrée à la navigatrice Florence Artaud, un hommage qui sera rendu à Jean-Pierre Bacri avec la projection du Sens de la Fête, L'été en pente douce, ou encore Thelma et Louise de Ridley Scott, ou La Fureur du Dragon, en hommage à Bruce Lee. Voilà, une grosse ambiance sur la croisette, garantie, assurément.
Voilà Manuel, merci pour ce petit résumé de ce qui vous attend pour cette 76e édition du Festival de Cannes. Mais on va en parler juste après avec Laetitia et Marie. C'est juste après The Weeknd qui arrive tout de suite avec Double Fantasy. C'est la BO de la série The Idol, on en parle dans quelques instants, bougez pas.
In your heart, baby girl, I'm the only one who knows the side of you, and baby, you know that I can pull out what's inside of you, even though it's wrong. You want me inside, yeah. Beg me to slide, yeah. Knowing we should.
world in my palm. I sent your envelope, came with a poem. You possess venom that came with a charm. You get the good out of me when I perform. I know the bad in you, that's what I want. And you a baddie, you turning me on. Fiend for your demons, I know where it's going. Love when you fucking, you talking, I know what you're doing. Caught up in love, what the fuck is we doing? Bottles and bottles with us, ain't that good? I tell you, I got you, that's well understood. Your legs on the big, got your head on the floor. We go out shopping whenever we get bored. We get the pop and leave none in the store. If I go to Saturn, I know that you're born. Fuck me on Saturday, early in the morning. Fighting a bird, she gon' open her door. Screaming out murder, but showing you remorse. Gotta be cautious, can't play the support. Stars in the ceiling, don't feel like the push. Came from the trenches, just living on war. Once was a prostitute, I can afford the one I adore.
Temperature rising, bodies uniting. Now that I've trapped you in my arms. No need to fight it, no need to hide it. Now that I've seen what's in your heart. Baby girl, I'm the only one who knows inside of you. And baby, you know that I can pull out what's inside of you. Even though it's wrong. It's wrong. Even though it's wrong, baby. My girl.
Vous êtes sur BacFM, bienvenue, c'est Action, votre rendez-vous cinéma, et tout de suite on va parler du Festival de Cannes, parce que hier, la 76e édition du Festival de Cannes a ouvert donc avec Jeanne Dubarry, le film de Mai Wen, on vient d'en parler avec Manuel Housset, et puis c'est à partir d'aujourd'hui que de nombreux films entrent en compétition, trois réalisatrices et un réalisateur représentent la France dans la compétition cannoise, quatre films français donc parmi 21 en compétition, le retour de Catherine Corsini, Anatomie d'une chute de Justine Triet, La passion de Dodin Bouffant de Tran Hang Hung, avec Julienne Binoche, Benoît Magimel et Pierre Gagnaire, L'été dernier de Catherine Breillat, et on va faire le tour des films très attendus, qu'ils soient en compétition et hors compétition. Ça commence avec May December de Nathalie Portman, qui présente au Festival de Cannes ce film en compétition. Elle y joue une actrice hollywoodienne rencontrant une femme jouée par Julianne Moore, dont la vie sentimentale a fait les choux gras de la presse pendant 20 ans et qu'elle va bientôt incarner à l'écran. Harrison Ford aussi montre à les marges, donc on en a parlé avec Manuel Housset. Et puis 2 ans après la présentation de Benedetta de Paul Verhoeven et 1 an après avoir officié comme maîtresse de cérémonie d'ouverture et de clôture, Virginie Efira est de retour à Cannes. Elle aura une double actualité sur la croisette avec les longs métrages L'amour et les forêts où elle campe le rôle d'une femme sous l'emprise de son mari possessif et dangereux. Ça sort mercredi prochain, et Rien à perdre aussi qui sort prochainement. Avant de continuer sur le Festival de Cannes, je vous propose la bande-annonce de L'amour et les forêts qui sort donc mercredi prochain.
J'étais folle de lui.
Eh bien oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier.
Il était d'une tendresse infinie.
Oh, je t'aime. J'aime tout.
Moi aussi.
C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage.
Bon, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi?
Ah, j'échange la mer contre les forêts.
Et l'amour.
Tu te plains de ton mari?
Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi? Pardon, excusez-moi.
Pourquoi tu m'as raccroché au nez?
J'étais en cours.
Tu rentres à quelle heure?
17h, pourquoi?
Il t'appelle tout le temps ton mari, hein?
Oui, il est comme ça. Bah t'es complètement fou.
Bah, je te parle mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein. C'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te veux que pour moi.
Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible.
Et vous suivez?
T'étais où? Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. T'étais où? Oh, Blanche, je t'aime tellement.
Je vous préviens, le chemin va être long. Vous devrez dire des choses qui vous font souffrir. C'est une guerre.
L'amour et les forêts, c'est un film donc présenté à cette nouvelle édition du Festival de Cannes. Lily Rose, née de l'union entre Vanessa Paradis et Johnny Depp, sera également à Cannes pour la présentation de la série The Idol, dans laquelle elle donne la réplique à The Weeknd. On va en reparler dans quelques instants, car c'est l'événement de cette 76e édition. Et puis il y a d'autres films qui sont très attendus, comme Killer of the Moon, le dernier Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone et Robert De Niro. Le Livre des Solutions, aussi avec Pierre Niney, derrière la caméra de Michel Gondry. Un western moderne de Pedro Almodovar, on en parlait avec Manuel Housset. Voilà les films attendus. Il y a aussi Little Girl Blue avec Marion Cotillard. Et puis il y a un film aussi que Marie attend et elle nous le présente.
Mais alors du coup, moi j'ai choisi de parler de Firebrand. Alors c'est ni un film français ni un film américain, pour le coup c'est un film britannique qui est réalisé par Karim Aynouz et scénarisé par Jessica et Henrietta Ashworth, donc les sœurs Ashworth. Et donc, il s'agit d'un drame historique. Tu sais que moi, j'aime bien les films historiques.
Oui, je le sais. Tu nous l'as déjà montré.
Donc,
voilà,
donc c'est un drame historique qui est actuellement, du coup, en compétition à Cannes, qui est donc en compétition avec à l'affiche Alicia Vikander et Jude Law. Alors, mais de quoi ça parle, Firebrand ? Eh bien, c'est ce film, ça retrace l'histoire de Catherine Parr, donc reine d'Angleterre et dernière épouse du terrible roi Henri VIII, une position à laquelle elle ne s'entendait pas et surtout qu'elle n'avait pas du tout désiré, parce qu'en effet, Catherine Parr, c'est la sixième femme à s'asseoir sur le trône aux côtés de Henri VIII. Et en sachant que sur les cinq précédentes, il y en a une qui est morte en accouchant, deux qui ont été répudiées par le roi et les deux dernières qui ont été exécutées sur ordre de Henri VIII.
D'accord.
Donc c'est dans un cadre un petit peu particulier que Catherine, elle va être couronnée. Et à partir de ce moment-là, en fait, elle va devoir ruser pour éviter de tomber dans les pièges que vont lui tendre la cour, l'évêque et le roi.
Bien sûr. Okay.
Voilà, donc c'est pas une place facile, femme de Henri VIII. Et c'est vraiment un film qui a l'air, moi que j'attends, parce qu'il a l'air vraiment de baigner dans une sorte de tension très forte avec du coup les jeux de pouvoir, les trahisons auxquelles on peut s'attendre. Bah, c'est quand même un film à la cour anglaise. Donc y a vraiment ce côté... qui a le plus d'emprise sur le roi, le roi lui-même, qu'est-ce
qu'il fait ? Et lequel va mettre un coup dans le dos à l'autre,
Ouais, voilà, c'est ça. Et surtout, en fait, c'est très intéressant d'avoir un film sur la sixième femme d'Henri VIII, car en général, on s'intéresse surtout aux deux premières, parce que c'est la relation qu'il a avec ces deux premières femmes qui a créé cette séparation entre l'église du Vatican et l'église anglicane.
D'accord.
Je sais pas si tu connais, mais tu sais, donc en gros, il était marié à une autre Catherine, d'ailleurs, il était marié à une Catherine Aragon.
D'accord.
Aragon. Et pour épouser une femme dont il est tombé amoureux, Anne Boleyn, et il a répudié son ex-femme et a créé du coup cette rupture et l'église anglicane. Et bon, après ça s'est mal fini parce que sa deuxième femme, il l'a fait décapiter.
D'accord, ouais, super.
Et il est arrivé comme ça jusqu'à six femmes, mais on parle jamais des quatre autres. Et donc c'est très intéressant, je trouve qu'on ait vraiment une vision sur la dernière, qui est celle avec qui il est resté jusqu'à la fin de sa vie au final. Et donc voilà, moi j'ai très très hâte de voir Firebrand.
Eh bien écoute, c'est une proposition de Marie, un des films qui est présenté au Festival de Cannes. Et puis il y a Tom Hanks aussi, qui sera donc sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Manuel Housset nous en parlait pour un film qui est complètement barré, parce que Wes Anderson, qui a clairement son univers, et encore plus dans son dernier film, Asteroid City. Hein, Letty ?
Bah ouais, film qui sera présenté le 23 mai, si je dis pas de bêtises. Alors pour le pitch, on est en 1955, qui est la petite ville fictive d'Asteroid City, qui est située en plein désert américain. Elle reçoit une convention scientifique avec des geeks de l'époque, puisque c'est consacré à l'astronomie. Alors on y trouve bien sûr des enfants de tous horizons, mais aussi leurs parents qui les accompagnent. Et alors que la convention bat son plein et que les familles lient connaissance, eh bien au loin on aperçoit par-delà des collines des champignons atomiques qui sont provoqués par des essais nucléaires. Alors c'est à peu près tout ce qu'on peut dire du pitch, parce que de tout ça, ça va découler toute une série de petites histoires un peu loufoques. Ça a l'air d'être un film très poétique, outre justement cette loufoquerie. Alors pourquoi j'ai choisi ce film-là ? Eh ben, tout d'abord pour son esthétique, parce que t'as dû regarder la bande-annonce.
Les couleurs.
Les couleurs. Moi, j'adore cette vision des années 50 avec ces couleurs très, très vives.
Très flashy,
presque pop art un peu. J'aime bien quand il y a une image un peu marquée comme ça dans le film. Toi, c'était le cas, par exemple, ça n'a rien à voir, mais dans Amélie Poulain, t'as cette image. C'est aussi un peu le cas des fois dans les Tim Burton.
Oui, aussi, oui, bien sûr. Ouais.
Donc voilà, ça m'a beaucoup plu, premièrement. Et puis aussi, pour ce casting exceptionnel qu'a évoqué Manuel tout à l'heure, l'immense homme Hanks qu'on présente plus, il y a Adrian Brody, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Jeff Goldblum, alors lui il a joué dans Jurassic Park, dans La Mouche, il y a William Dafoe aussi qui a dû jouer dans Platoon je crois si je ne confonds pas, Edward Norton, il y a aussi mes deux chouchous dans ce casting, Bryan Cranston connu pour son rôle dans Malcolm et dans Breaking Bad, et puis mon autre chouchoute c'est Maya Hawkes qu'on avait découvert grâce à Stranger Things, jeune actrice que j'adore, et puis il y a tes deux chouchous Théo aussi puisqu'on y retrouve,
je sais de qui tu as parlé,
Margot Robbie, et l'autre c'est qui?
Ah je sais pas l'autre c'est qui.
Et c'est Steve Carell.
Ah oui bien sûr, et oui Steve Carell, tu sais dans quoi il joue Steve Carell?
Oui.
Dans The Office.
Oui, oui.
La série. C'est génial, je vous la conseille. Si vous ne savez pas, elle est sur Netflix et elle est sur Amazon Prime.
Vous pouvez
pas
la louper. Hein,
j'adore cette série, j'adore. Un jour, je vais faire un The Office version Back FM. Je vais venir avec des caméras dans le bureau et tout.
Oh là.
Non, mais ouais, Asteroid City, ça a l'air d'être complètement barré. Et j'ai hâte de voir un petit peu Tom Hanks aussi dans ce personnage-là. Ouais. Parce que là, il a joué il n'y a pas très longtemps dans le pire voisin du monde. Ça n'a pas trop bien marché. En plus, son jeu d'acteur était un petit peu contesté parce que c'était pas foufou. Et là, j'ai hâte de le voir dans justement ce film-là, Asteroid City.
Et ben moi aussi, ouais, c'est aussi la grosse surprise. Moi, je m'attendais pas à un tel casting. C'est ouais. En m'intéressant justement à ce film. Et waouh, alors si tout est à la hauteur de ce prestigieux casting, ça risque d'être un film.
Bien, il est en compétition.
Ouais, il est en compétition. Ouais. Par contre, Wes Anderson, c'est toujours un petit peu clivant, donc on va voir.
Ouais. Par contre, ouais, Wes Anderson, c'est très space. Hein. Le cinéma de Wes Anderson est clairement un cinéma à part, de toute façon.
Ouais.
Mais tu verras, parce que faut dire que dans le Festival de Cannes, il y a plein d'autres compétitions au-delà de la Palme d'Or. On parle beaucoup de la Palme d'Or, mais il y a la Palme de la caméra, il y a la Palme de etc. Un petit peu comme au César, il y a plein il y a plein de remises de prix, et tu verras que ce film va en gagner, j'en suis sûr.
Ouais. Bah perso, l'imagerie de Wes Anderson, moi, je l'aime beaucoup.
Ouais, et puis la manière dont il a de filmer les acteurs, etc. C'est un petit peu intimiste. Enfin, c'est très spécial, mais je pense que ce film va bien marcher et va recevoir quelques prix. Et puis moi, je vais vous parler de quelque chose, je vous le disais tout à l'heure, donc d'un événement. C'est aussi la série. Donc, c'est pas un film, c'est une série qui est présentée. Ça s'appelle The Idol. C'est hors compétition au Festival de Cannes. Alors, je vais vous pitcher un petit peu le film. Après une dépression nerveuse, c'est la chanteuse qui s'appelle Jocelyn qui est bien décidée à renouer avec le succès. C'est une chanteuse pop. Tout bascule lorsqu'elle va tomber sous le charme de Tedros, c'est un propriétaire de club à Los Angeles, mais qui est, en réalité, le leader d'une étrange secte. Passionnelle et fusionnelle, cette nouvelle relation va profondément marquer la chanteuse et sa carrière, pour le meilleur et pour le pire. Alors c'est ce qu'on va découvrir, c'est à partir du 4 juin sur Prime Video. Dans cette série, la pop star Jocelyn, elle est jouée par Lily Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp. Et Tedros, il est joué par The Weeknd, qui est également le créateur de la série. Alors c'est une série qui est beaucoup attendue et qui, en plus, a pris du retard, parce qu'il y a eu un différend créatif entre The Weeknd et la réalisatrice, Amy Semet, alors que la série était presque finie. Donc ça a mis beaucoup de retard parce qu'il a fallu tout recommencer. Cette situation, elle a poussé la production à se séparer donc de cette dernière, la réalisatrice, en la remplaçant par Sam Levinson, qui est le créateur et réalisateur de la série Euphoria. Ça te parle Letty, Euphoria?
Ah ouais, moi j'ai kiffé Euphoria.
Ouais,
très bonne série.
Et alors du coup, ça fait qu'au final, la réalisation, elle a plus du tout le même esprit, et on peut s'attendre à une série qui est très sulfureuse, dans les couleurs d'Euphoria, avec une pop star incarnée par Lily Rose Depp, très sexy pour dénoncer aussi, car c'est l'objectif de cette série, l'envers du décor de l'industrie musicale. Moi, j'ai un petit peu vu la bande-annonce et plusieurs extraits. Elle me fait un petit peu penser dans son jeu Lily Rose Depp à Miley Cyrus, un petit peu.
D'accord.
À la nouvelle Miley Cyrus, ouais, qu'on peut retrouver dans son nouvel album.
Pourquoi pas.
Voilà. Donc
ouais,
écoutez, c'est ce que je vous conseille de jeter un œil. Et en plus, ça sort le 4 juin sur Prime Video.
Et bah écoute.
Donc ce sera l'occasion de voir ça. De toute façon, je vais la regarder cette série et je vous en parlerai.
On ira regarder ça.
Maintenant, voir s'il va nous en vouloir si on la regarde pas.
Non, je vous en voudrais pas. Mais je pense que ça va amener aussi un petit peu un nouveau souffle au Festival de Cannes. Je trouve que les arrivées de séries Prime Video, Netflix, ça va amener un petit peu comme au César aussi un nouveau souffle.
En même temps, maintenant c'est comment dire, voilà, les plateformes de VOD avec leurs séries, ça fait vraiment partie maintenant du paysage
cinématographique,
vidéoludique. Donc forcément, au bout d'un moment, je pense que c'était la bonne continuité des choses, ouais. Que ça soit intégré dans ce genre de compétition.
C'était évident que ça arrive, et puis on peut féliciter, alors je pense pas qu'il nous écoute, mais on peut féliciter Michael Douglas quand même hier, qui a reçu la Palme d'Or d'honneur. C'est le premier récompensé de ce Festival de Cannes, il l'a reçu par Catherine Deneuve. Voilà, c'est la fin d'Action pour cette semaine, merci les filles. Merci à vous.
Merci à toi.
On va reparler du Festival de Cannes dans les infos parce qu'on se retrouve à 13h. On va continuer de parler cinéma aussi avec Céline Quanon et on parlera spectacle. À tout à l'heure.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre.
Moteur. Et action.